Alors, nous avons d'abord prié, parce que nous avons l'habitude, et c'est une très bonne habitude, de demander à Dieu l'éclairage de son Saint-Esprit, pour que vraiment nous puissions saisir le cadeau qu'il nous fait dans sa parole. Seigneur notre Dieu, merci, nous te disons d'abord merci pour ta parole. Cette parole, nous le savons, elle est la vérité d'abord, elle est riche. Elle est remplie d'amour. Elle est remplie que de bonnes choses pour nous. Et si nous nous écartons de cette parole, nous savons bien ce qui se produit. Nous nous éloignons de toi par la même occasion. Cette parole n'est pas toujours facile à comprendre, à recevoir. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Et pourtant, c'était une parole de vérité et de vie. Alors Seigneur, inspire nos réflexions, nos raisonnements, pour que cette parole ne soit pas déformée, mais qu'elle puisse livrer sa pleine vérité. Amen.
Amen.
Je vous lirai deux textes, donc les textes sont des textes du jour. Le premier se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. 1 roi 19, au premier verset. Le roi Akab rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Je précise les prophètes, les faux prophètes, les prophètes des dieux étrangers, Baal et compagnie. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure je me fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'en est trop !» Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi. « Mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. C'est-à-dire au Sinaï, je précise le mont Horeb, c'est le mont sur lequel Moïse a reçu la loi, Sinaï. Donc vous voyez peut-être la distance hein, que Élie a dû parcourir à pied, naturellement. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi seul, et cherche à prendre ma vie. » Alors, on reviendra sur ce texte, mais tout d'abord, on va lire 5 versets de l'Évangile de Jean, au chapitre 6. Donc, Jean 6, pour ceux qui lisent dans leur Bible. Nous lisons du verset 47 à 51. Alors, voilà ce que Jésus dit dans Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors, comme je vous l'ai annoncé, on va revenir sur le texte du livre des Rois. Pour bien comprendre ce qui se passe dans ce passage du livre des Rois avec Élie, finalement il aurait fallu lire deux ou trois chapitres avant et peut-être même deux ou trois chapitres après pour bien comprendre. Alors comme on est quand même limité par le temps, je vous fais un résumé. En fait, Élie au départ a été suscité par l'Éternel pour annoncer quelque chose de terrible, une sécheresse épouvantable, donc une famine épouvantable dans le pays. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël s'était complètement détourné de l'Éternel pour se tourner vers les idoles, Baal, Astarté, Akhéra, Asherah, etc., etc. Et ces cultes de divinités païennes avaient de nombreux prophètes. En l'occurrence, Baal avait 450 prophètes. 450 prophètes qui tenaient le peuple en quelque sorte. Et il a organisé une compétition, on peut appeler ça comme ça, on est en plein dans les JO, là, les Jeux Olympiques, compétition, pour démontrer qui est le vrai Dieu et qui sont les faux dieux. La compétition consistait donc lui tout seul, représentant de l'Éternel, contre les 450 prophètes de Baal. Alors je vous passe les détails, comment s'est organisé ce défi, en quelque sorte. Eh bien, pendant ce défi, Élie a véritablement ridiculisé les prophètes de Baal. Et puis, à la fin de l'affaire, il les a fait exécuter, égorger 450 prophètes. D'où la colère de Jézabel. Alors Jézabel, c'est la femme du roi Akab, elle était originaire, elle était la fille du roi de Sidon, de Tyre, l'un l'autre, c'est-à-dire une femme d'origine païenne qui avait importé, en se mariant avec Akab, avait importé ses faux dieux et les avait imposés à la population. Alors elle est furieuse et donc elle annonce à Élie qu'elle va vous l'avez entendu, hein, qu'elle va faire à Élie ce que lui a fait aux 450 prophètes. Donc il prend la fuite. Alors voilà, il laisse son serviteur à Beersheba, il continue une journée de marche, il est en plein désert. Alors, à ce moment-là, si vous relisez bien le texte, vous verrez que manifestement, Élie est complètement déprimé, découragé. Mais moi, je vais carrément parler de dépression. Élie nous fait une dépression. Il y a au moins trois symptômes. Le premier, c'est qu'il dit qu'il veut mourir. Alors, il n'est pas suicidaire, attention, mais il dit « Éternel, reprends ma vie, car, reprends ma vie, je ne veux plus vivre. » Premier signe. Le deuxième signe de dépression, c'est que il se culpabilise. Il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, vous voyez, c'est un signe de dépressif, c'est « je ne vaux plus rien, je ne sais rien faire, je ne vaux rien, je suis nul, j'ai tout raté. » Ça aussi, c'est un signe de dépression profonde. Troisième signe, c'est qu'il se réfugie dans le sommeil. Il nous a dit qu'il se couche sous un genêt et s'endort. Et c'est une façon aussi, parfois, pour les dépressifs, se réfugier dans le sommeil, parce que quand il dort, ma foi, il ne pense pas à tous ses malheurs et son découragement. Dépressif. La grosse déprime. Alors bien sûr, l'Éternel vient en quelque sorte à son secours, vient l'assister. Il lui envoie un ange. Et de quelle façon vient-il en aide à Élie ? Eh bien avec de la nourriture. Oui. Vous l'avez entendu, hein, vous pouvez le relire. Un gâteau, il faut comprendre une sorte de pain, pain cuit, encore tout frais cuit, hein, et puis une cruche d'eau. Mange. Mangez-moi. Bon, c'est pas très efficace dans l'immédiat, puisqu'il nous a dit qu'il se recouche après avoir mangé et bu. Et de nouveau, l'ange lui dit, lève-toi, mange. Et là, il précise, car le chemin serait trop long pour toi. Alors là, quand même, il y a quelque chose d'un petit peu étrange, parce qu'on se dit, l'Éternel vient au secours d'Élie, bon, avec de la nourriture, bon, c'est vrai qu'il doit avoir faim, une journée de marche, bon, faim et soif. Mais on aurait pu s'attendre à ce que l'Éternel lui dise « C'est bon, t'es un bon serviteur, alors maintenant je vais te trouver un coin où tu seras en sécurité, tu pourras te reposer, tu le mérites bien. » Non. Non. Il lui dit pratiquement « Attends, c'est pas fini, il y a encore du boulot, j'ai besoin de toi. » En gros, c'est ça. Et effectivement, par la suite, si vous lisez le texte, vous allez voir que Élie est envoyé, il doit aller oindre le roi de Damas, oindre le roi d'Israël, Jéhu, et moindre aussi celui qui va lui succéder, c'est-à-dire Élisée. Il y a du travail. Alors, curieuse façon de soigner un dépressif, en lui disant « Allez, remue-toi, il y a du boulot. » Enfin, il n'a pas dit comme ça, hein, enfin, ça, c'est un meilleur même. Oui. Je ne suis pas l'Éternel, donc j'ai ma façon de m'exprimer. Bon, alors, retenons bien ça. On va le laisser un petit peu de côté, et puis on va s'interroger, on va laisser un peu Élie de côté et s'interroger sur nous-mêmes. Alors la dépression, tout le monde connaît dans son entourage des gens, c'est un fléau. Il paraît que c'est le mal du siècle, alors il y a beaucoup de choses qui sont décrétées mal du siècle, mais un mal qui touche énormément de gens, c'est assez affreux parce que ça démolit des vies, hein, véritablement, parfois sur pendant des années, pendant. Alors, ces dépressions, elles sont très souvent contextuelles, c'est-à-dire que, alors pas toujours, parce que c'est une maladie quand même pour certains, mais dépression parce que les fléaux sont tombés, une maladie, un deuil, une déception, tout ce qui fait, effectivement, la vie, pour certains, la vie est dure, c'est pas de cadeau, et donc certains sont amenés à tomber en dépression. Et je crois que c'est vraiment un sujet de prière quand on connaît quelqu'un qui est dans cette dépression, parce que c'est vraiment un état qui est insupportable dans le sens où la personne dépressive a du mal à se raccrocher à Dieu. Il faut l'aider par la prière, par l'amitié, bien sûr, la fraternité. Voilà. Mais bon, moi je ne suis pas médecin et un psychiatre, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, hein. Vous en savez autant que moi là-dessus. Par contre, dans ma tête est arrivée une sorte de notion qui est peut-être un petit peu, va paraître un petit peu bizarre, ça serait la notion de la dépression spirituelle. Excusez-moi pour la néologie. Dépression spirituelle. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Parce que c'est peut-être aussi un peu ça pour Élie. Une dépression spirituelle. Vous savez que la foi, c'est pas quelque chose de linéaire, régulier, constant, solide, qui progresse doucement, etc. Non. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui est en dessous. On est parfois emballé, alors ça y est, on a la foi pour déplacer les montagnes, comme c'est écrit dans la Bible. On sent que on a un cœur indestructible pour Dieu, que une confiance absolue, on serait prêt à partir au bout du monde si vous le demandez. Bon, très bien. Et puis, aussi bien le lendemain, on pousse des gros soupirs. Et pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que on n'est pas très brillant. Comme dit Paul dans les Épîtres, je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. On se rend compte qu'on n'est pas si brillant que ça. Alors là, on commence déjà à rentrer, on est découragé. Donc dans ce que j'appelle la dépression spirituelle. Est-ce que Dieu entend seulement mes prières ? Qu'est-ce qu'il va faire de moi ? Il y a 7 milliards d'humains là sur la Terre, et puis moi je suis là à prier, il n'y a pas de temps à perdre. Enfin bon, on ne se le dit pas, mais ça agit en nous, un peu dans ce sens. Je ne vaux pas grand-chose aux yeux de Dieu. Je me croyais fort et puis finalement je vois bien qu'à la première épreuve m'effondre. Je ne suis pas capable de faire ceci, cela pour le service du Seigneur. Je ne vaux rien. Et vous voyez, c'est cet état dépressif dans lequel se trouve Élie quand il dit « Je ne vaux pas mieux que mes pères ». Alors bien sûr, comme pour Élie, eh bien le Seigneur nous vient en aide quand on est dans cet état. Avec quoi ? Eh bien, il ne faut pas chercher plus loin, avec de la nourriture. Alors, je ne parle pas de la nourriture, encore que la nourriture que vous allez trouver dans vos assiettes tout à l'heure à midi, qui dit dépression spirituelle, dit nourriture spirituelle, bien sûr. Alors, vous avez fait la correction de vous-même, hein, naturellement. Oui, oui. Le Seigneur nous vient en aide avec de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture, et même la boisson, elle porte un nom. Voilà. On dit presque Jésus, j'ai entendu. La nourriture spirituelle, la nourriture qui vient combattre notre dépression spirituelle, s'appelle Jésus, s'appelle le Christ. Et Sophie a raison, dans la scène, nous avons les signes, attention, les signes, le signe de cette nourriture que Dieu nous donne. Et j'ai même presque envie de dire, je peux le dire, hein, ça c'est pas une hérésie, que Jésus-Christ se donne en nourriture à nous. Il l'a d'ailleurs dit, hein, il dit personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Attention. Jésus se donne. Et alors, j'étais parti pour toute une réflexion sur le pain. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qu'on a lu hein, dans le petit extrait de l'évangile de Jean. Je suis le pain descendu du ciel, le pain vivant, voilà. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, etc. etc. Et puis, je n'étais pas là dimanche dernier, mais j'ai pu lire la prédication de Matthias qui était intégralement sur ce sujet. Alors, je ne vais pas tout reprendre, je vous renvoie, elle est sur Internet, je vous renvoie à la prédication de Matthias de dimanche dernier qui explique par rapport à la manne qui était le pain donné aux Hébreux, hein, la manne, et donc le parallèle avec Jésus qui est cette nourriture qui nourrit notre spiritualité, bien sûr, hein, qui est donnée par Dieu qui descend du ciel. Mais si je veux absolument rester collé au texte des rois, du premier livre des rois, rappelez-vous ce qu'on a vu, c'est que l'Éternel, par l'intermédiaire de l'ange, donne de la nourriture à Élie, pas pour lui dire maintenant repose-toi, dors, voilà, t'es tranquille et en sécurité. Non, c'est pour l'envoyer à son service, pour poursuivre le service. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, à faire des choses extraordinaire, etc. Mais nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Vous savez, le service, il commence avec des petites choses et qui sont très précieuses aux yeux de Dieu. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Parfois, quand nous sommes dans ce que j'ai appelé, je m'excuse encore du terme, la dépression spirituelle, eh bien, nous appelons par la prière, nous appelons cette nourriture qui s'appelle Jésus-Christ. Viens dans ma vie, viens remplir, non pas mon estomac, mon cœur, hein, bien sûr. Viens remplir mon cœur, Seigneur Jésus, pour que je sorte de cette dépression, et pas pour me reposer, pour te servir. Pour te servir. Voilà donc le parallèle qu'on pouvait faire entre ces deux textes. Alors, ils n'ont pas été choisis au hasard, c'est pas moi qui les ai choisis, mais cette histoire qui concerne Élie est une illustration de ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Oui, nous allons rencontrer des moments de dépression spirituelle. On est au fond du trou. Pas forcément dans nos vies de tous les jours, mais spirituellement, vis-à-vis de Dieu, où est-ce que j'en suis? Pas terrible, franchement. Voilà. Mes amis, ne rêvons pas. Je me souviens d'un pasteur qui nous disait ça, presque en criant. Ne rêvons pas notre foi. Notre foi, c'est d'abord, ça se situe très bas, très bas, très bas, et en plus, dans des creux. Ne rêvons pas notre foi. Nous ne sommes pas. Alors, bien sûr, on lit les exploits des personnages de la Bible qui font des miracles, qui font des choses extraordinaires et tout, alors ça fascine. Mais ne rêvons pas. Notre foi, c'est un chemin chaotique sur lequel on trébuche régulièrement, et il faut, quand on tombe, il faut se relever et encore avancer. Et ceci jusqu'à la fin. Ne comptez pas arriver à un stade parfait ultime avant le royaume des cieux. Ne rêvons pas. Et peut-être qu'en étant réaliste, c'est là qu'on est dans la vérité, parce que c'est en étant, en reconnaissant la faiblesse de notre spiritualité, la faiblesse de notre foi, qu'on peut pleinement recevoir la grâce et la paix qui nous sont données par Dieu le Père, mais au travers du Fils. Ne rêvons pas, mais soyons pleins d'espoir. Et je pense que la dépression, qu'elle soit dépression tout court, c'est la maladie, bon, ou que ce soit ce que j'ai appelé la dépression spirituelle, c'est vraiment l'arme numéro un de l'ennemi. Le diable, Satan, le diviseur, appelez-le comme vous voulez. Celui qui est très malin, d'ailleurs on l'appelle aussi le malin. C'est l'arme numéro un parce que il aime bien culpabiliser. Il nous souffle à l'oreille. Regarde-toi, on n'est pas vu comme chrétien, comme ça se pose là. Une autre fois, attends, pourquoi ? Qu'est-ce que tu pries là ? Tu parles au mur, il t'écoute pas. Il t'écoute pas. Ça vous est jamais arrivé, en priant, d'avoir l'impression de parler au mur ? Il paraît que c'est ce qui était arrivé. Un journaliste a interviewé un juif qui était au mur des lamentations, peut-être. Et puis il dit, mais vous priez pourquoi ? Pour la paix du monde. Il dit. Et vous avez l'impression que ça sert à quelque chose ? Il dit, non, j'ai l'impression de m'adresser à un mur. C'est lamentation. Vous savez, des fois, on se dit, j'ai prié là, mais. Et oui, le Seigneur nous entend. Bien sûr, enfin le témoignage. J'aime bien Jésus qui dit, bien sûr. Tu as raison, Jésus. Oui, oui, le Seigneur nous entend. Alors, bien sûr, nous, on a déjà imaginé la solution quand on appelle à lui. Et ça, c'est pas la solution que lui, il a choisie. Alors, des fois, on est déçu, bah oui, il m'écoute pas. Mais si, il va répondre autrement que ce qu'on a prévu. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, que le Seigneur nous aide, nous fasse disparaître de nos vies ces moments de dépression spirituelle qui nous remplissent. Hein. Et de la même façon que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il a dit « Je suis le pain ». Le pain, c'est la nourriture. C'est un processus extraordinaire. Quand vous mangez de la nourriture, ça va se transformer en force. Mais ça ne se fait pas tout seul, ce n'est pas immédiat. Vous mangez, il faut d'abord que ça soit digéré, c'est-à-dire que chaque molécule et chaque atome de ce que vous avez mangé soit séparé, cassé, véhiculé par le sang, travers le foie, et les atomes, notamment de carbone, qui sont à l'énergie, vont se fixer dans vos muscles. Et lorsque vous allez faire un effort, le carbone, il est là, vous avez la force. Pourquoi ? Parce que vous avez mangé bien avant. Si vous mangez 5 minutes après, vous faites un effort, ça ne profite pas, il faut être patient. Bon, après ce cours de médecine, revenons à notre prédication. Oui, Jésus a dit « Je suis le pain vivant ». Et oui, souvent j'ai fait remarquer que ce verset, Jean 14, 6, Jésus ne dit pas « Je vous montre le chemin, je vous dis la vérité et je vous offre la vie ». Non, il dit « Je suis ». Sacrée différence. Voilà pourquoi il faut le manger. Il faut manger le Christ. C'est une image, mais il faut manger le Christ. C'est vraiment le phénomène de l'incarnation, mais nous aussi, on peut incarner en nous le pain vivant qui descend du ciel, de la même façon qu'on peut incarner le chemin, la vérité et la vie en recevant le Christ. Amen.